Je voulais aujourd'hui aborder un thème qui nous concerne tous, un thème qui est un peu le cheminement normal de, un peu en réponse avec ce qui se passe dans notre monde aujourd'hui. Quand on observe notre monde aujourd'hui, à travers notamment les médias, on se rend bien compte, Paul l'a dit, donc je ne fais que répéter, on se rend bien compte que le monde va mal, qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond, que c'est comme si les choses n'étaient pas en place. Et surtout aussi, on se rend compte que c'est un monde de plus en plus négatif, de plus en plus négatif à l'égard de Dieu, à l'égard de la religion, à l'égard de la foi en général. Et cependant, on ne voit pas que ça. On voit en même temps cette espèce de combat contre la foi, mais on voit aussi que nous sommes dans un monde où les gens sont de plus en plus dans la détresse, de plus en plus dans le besoin. Détresse matérielle, détresse économique, détresse financière, détresse par rapport à l'instabilité, les gens ne sont pas, ils doivent quitter des lieux, ils doivent quitter leur pays à cause de la guerre. Il y a un peu partout dans le monde et autour de nous une certaine détresse qui devient palpable, visible, tant bien chez les enfants que chez les plus âgés, que pour tous les âges. Et même dans des pays comme les nôtres, où peut-être la détresse économique, financière n'est pas aussi profonde, aussi grande, aussi grave qu'ailleurs, il y a une forme de détresse qui existe aussi même dans nos pays, qui est une détresse plutôt morale, plutôt psychologique. Avez-vous déjà entendu parler de cette espèce de sondage? C'est pas un sondage en fait, c'est une étude sociologique qui a été faite par, je crois, l'université de Gand sur la qualité du vivre ensemble des Belges. Alors, ils ont fait donc une étude pour voir un peu comment sont les Belges entre eux, comment vivent-ils ensemble, sont-ils heureux ensemble. Et ils ont fini par intituler cette étude sociologique « Noir, jaune, blues ». Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont constaté que la plupart des Belges, 61% des Belges, eh bien, ils vivent dans la peur du chaos. Peur qu'un jour, cette histoire, cette belle condition de vie qui a été bien accumulée se disparaisse. Peut-être avec le terrorisme, peut-être avec les crises économiques, peut-être avec le délitement du système social. Les gens vivent dans la peur du chaos. Ils vivent il y a un déficit de confiance envers les dirigeants. Et vous êtes d'accord avec moi que des scandales comme les scandales de Publifine n'aident pas beaucoup à ce qu'on puisse s'imaginer que nos dirigeants sont des bons dirigeants, je veux dire. Et c'est une situation qui rend beaucoup de gens, qui donne le blues pour beaucoup. Et les gens sont dans une certaine détresse. Mais à côté de ça aussi, avec cette détresse, les gens cherchent. Ils cherchent une route. Ils cherchent un chemin. Ils cherchent un moyen pour sortir de là. Au niveau politique, on voit de plus en plus des initiatives citoyennes, des citoyens qui se regroupent de plus en plus pour essayer de faire face aux problèmes qui leur sont présents parce qu'ils n'ont plus confiance en leur chef. Vous avez vu comment les citoyens, de plus en plus, parfois jusqu'à voter mal pour des partis parfois extrémistes, juste parce que on cherche une solution. On cherche comment corriger cette morosité, comment aspirer à autre chose. Et je ne suis pas prophète. Je n'ai pas le don de prophétie. Mais ce que je vois, c'est que cette détresse-là est vraiment une niche dans laquelle Dieu va agir. Dieu sera aussi au rendez-vous. C'est pas du tout, je ne vais pas du tout prophétiser, mais je vois à travers cette détresse qu'il y aura un réveil. Un réveil des chrétiens pour atteindre ces gens qui sont dans la détresse, pour les gagner à Christ. C'est ce que je vois. C'est ce que je vois. C'est un rendez-vous pour nous aussi, les chrétiens, pour gagner des âmes à Christ. Et mon rôle ce matin, mon rôle toujours, ça sera de nous doter tous en tant que peuple de Dieu d'un bon équipement spirituel afin que nous réussissions notre collaboration avec Dieu dans cette conquête des âmes, dans ce témoignage, dans notre témoignage d'aujourd'hui face à ce monde dans la détresse. Nous avons à nous équiper, à être prêts avec tout l'équipement spirituel qu'il faut pour gagner les âmes à Christ. Et nous avons parlé de ça, et j'ai déjà présenté deux équipements depuis le début de cette année. Deux équipements. J'avais parlé de l'amour comme motivation pour servir Dieu. Ça, c'était le premier équipement. Travailler pour Dieu, servir Dieu en étant motivé par l'amour. L'amour pour Dieu. L'amour pour les frères parce que Dieu le demande. Les frères et sœurs. Le deuxième équipement auquel j'avais fait allusion, c'était la gestion de notre temps. Racheter le temps. Racheter le temps parce que les temps sont mauvais, parce que nous pouvons encore le faire aujourd'hui. Aujourd'hui, et j'ai beaucoup aimé le message de James Moore, parce que le dimanche passé, il a mis vraiment un cadre à cette vie spirituelle, à cette marche de chrétien. Ce cadre, c'est en quelques mots, Christ en vous, le mystère, l'espérance de la gloire. Un véritable mystère qu'il a essayé de dégager, et je pense que c'est un cadre qui peut nous motiver pour aimer le Seigneur et travailler pour lui, un cadre pour ne pas perdre le temps, mais vraiment utiliser sagement notre temps pour pouvoir être pour le Seigneur, travailler pour le Seigneur. Ce matin, j'aimerais ajouter un autre équipement spirituel, quelque chose auquel le chrétien doit veiller à s'équiper pour marcher avec Dieu. Et c'est là que je disais que c'est assez étonnant parce que il y avait déjà beaucoup d'éléments qui étaient repris dans la présidence. C'est la crainte de Dieu. J'aimerais ce matin parler de la crainte de Dieu. Prions. Seigneur, merci pour ta parole qui est la vérité. Merci de ce que elle nous éclaire et nous aide et elle nous permet d'avancer avec toi. Aide-nous à rentrer dans ton intimité à travers ta parole, à nous découvrir tels que nous sommes, à nous découvrir et à nous mettre vraiment dans notre propre réalité. En même temps, viens construire avec nous notre vie spirituelle, notre vie tout court, et qu'ainsi tout soit pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Donc je disais que il est important de saisir le signe des temps et de voir dans quelle époque nous sommes. Nous sommes en dans ce monde, nous ne sommes que des pèlerins, nous sommes en route, nous ne sommes pas d'ici, nous allons vers le ciel dont nous sommes les citoyens. Et nous sommes sur cette route et nous avons un boulot, nous avons une tâche. Nous sommes des missionnaires, nous sommes des ambassadeurs, nous sommes des représentants du royaume de Dieu. Et nous avons un rôle à jouer dans ce monde. C'est pas simplement de vivre notre vie en disant « Ok, correct, cool, je suis heureux, j'ai trouvé le Seigneur, j'ai trouvé quelque chose bien, j'ai planqué mon argent dans une bonne banque, c'est terminé, maintenant je peux m'asseoir dessus et dire « C'est la belle vie. » Non, nous avons un rôle, nous avons un travail. Et ce travail-là peut se construire aussi à travers la crainte de l'Éternel, la crainte de Dieu. La crainte de Dieu est une notion qui parcourt toute la Bible. depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Parfois difficile à comprendre, parce que le mot « crainte » est un mot qui peut être utilisé dans plusieurs sens. J'aimerais, peut-être juste pour commencer, vous proposer deux textes dans l'Ancien Testament qui parlent de la crainte, en tout cas de la crainte à laquelle je voudrais faire allusion ce matin. Deutéronome chapitre 10, le verset 12, nous sommes là avec le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël a traversé le désert, il est aux portes du pays à conquérir, de la terre que le Seigneur leur a promis, de Canaan. Ils doivent traverser le fleuve Jourdain pour entrer véritablement là, sur la terre, dans la terre promise en Palestine. Et les voilà en face de cette nouvelle situation pour eux, et Moïse prend la parole pour leur rappeler. C'est ça le sens du mot Deutéronome, n'est-ce pas? Le livre Deutéronome, ça veut dire le rappel de la norme, le rappel de la loi, en quelque sorte. On revient sur tout ce qui a déjà été établi pour dire, voilà la loi. Et aussi, en même temps, dans le livre Deutéronome, c'est très intéressant de voir, si vous devez comparer Deutéronome et Exode, vous allez trouver plein de raisons pour lesquelles Dieu a ordonné certaines choses en Exode. Parce que dans Deutéronome, il rappelle et il explique pourquoi Dieu a imposé l'une chose ou une autre. Voilà ce que Dieu dit à travers Moïse. Maintenant, Israël, que demande-toi l'Éternel ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel ton Dieu? Pourquoi? Afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Des trucs qui n'ont rien à voir, en fait. Craindre, aimer, ça peut paraître parfois tout à fait antinomique. Mais vous voyez, afin que tu craignes l'Éternel. Et la crainte de l'Éternel est une raison qui pourrait justifier alors la marche avec Dieu, qui pourrait justifier le fait d'aimer et de servir Dieu. Deuxième texte. Cette fois, je vais dans les livres poétiques. Ecclésiaste, chapitre 12, versets 13 à 14. Ça, c'est, vous connaissez le livre d'Ecclésiaste, qui fait partie des cinq livres poétiques, qui sont les livres de sagesse dans la Bible. Vous voyez, c'est la fin de ce livre. Et voilà ce que l'Ecclésiaste, donc Salomon, dit en résumé. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est la fin d'un discours. Il a parlé longuement, vous connaissez peut-être le livre d'Ecclésiaste, vous l'avez peut-être lu. Il a longuement parlé de la notion du temps avec ce mot phare, ce paradigme terrible, vanité de vanité, tout n'est que vanité et poursuite de vent. Et là, pour conclure tout cela, parce qu'en fait, le livre d'Ecclésiaste, c'est une recherche de Dieu. Le seul sens qu'on a dans la vie, c'est de chercher Dieu. C'est la seule chose qui vaut la peine dans l'existence humaine. Et la conclusion, crains Dieu. Crains Dieu. Et donc, ça pose l'importance de cette notion de la crainte. Je n'ai pas encore dit c'est quoi la crainte. Je pose juste quelques textes qui montrent l'importance de ce mot à des moments où c'est prononcé, où c'est exprimé. Dernier texte dans l'Ancien Testament, Proverbes chapitre 1 verset 7. Vous connaissez ce texte, hein? La crainte de l'Éternel est le commencement de la science ou la sagesse. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. C'est pas tellement ça l'objet de ma prédication ce matin, mais vous remarquerez donc que si l'on veut véritablement grandir dans la sagesse, on doit développer la crainte de l'Éternel. Craindre Dieu, c'est ça la source pour devenir sage. Donc, si nous avons ici l'importance de ce que c'est que la crainte, si la crainte est soulignée autant de fois, je ne sais pas, je n'ai pas compté le nombre de fois que le mot crainte a été utilisé dans l'Ancien Testament, mais dans le Nouveau Testament, j'ai comptabilisé jusqu'à 47 mentions du mot crainte. On voit dans tous les cas que la crainte de l'Éternel amène le croyant à obéir à ses commandements, à fuir le péché et à vivre une vie comme Dieu le veut. Mais quelqu'un dirait, mais que veut dire craindre? Dans la Bible, on voit des situations où Dieu a suscité la crainte, où Dieu a fait peur, où des peuples ont craint la colère de Dieu. Alors c'est quoi la crainte? C'est vrai que dans la Bible, le mot crainte est à la fois signifie à la fois la peur et même plus loin que la peur, parce que en grec on va jusqu'à utiliser le mot phobos qui veut dire la terreur. D'un côté, il y a ce mot la terreur, crainte, mais de l'autre côté, il y a aussi l'autre sens du mot qui est un respect profond. Plus que un respect profond, c'est véritablement une espèce de soumission, une espèce de dévotion, une espèce de dévouement à l'égard de quelqu'un. Et ce matin, c'est de cette crainte-là que je vais parler. Pas de la crainte en termes de terreur, parce que celle-là, elle existe aussi, elle est dans la Bible aussi, mais je vais parler plutôt de la crainte en termes de respect profond pour Dieu, de la considération profonde, de la soumission profonde à l'égard de Dieu, de la dévotion. Et vous remarquez quand même que dans les deux cas, que la crainte soit en termes de terreur à l'égard de Dieu, que ça soit en termes de respect profond à l'égard de Dieu, ces deux mots se justifient par le fait que les gens qui étaient en face de Dieu ont expérimenté un Dieu puissant, un Dieu impressionnant, un Dieu qui suscite cette crainte. Pensez à l'expérience, on y reviendra, du prophète Ésaïe, quand il se retrouve au trône, Ésaïe chapitre 6, et il est complètement impressionné, il dit « Malheur à moi !» Il est terrorisé par cette présence. Pensez au peuple d'Israël, lorsque au rendez-vous, ils disent « Mais Moïse, nous on veut voir ce Dieu, chaque fois c'est toi qui nous parle de ce Dieu-là, nous on veut le voir aussi !» Et dit « Ok, très bien, on fait rendez-vous avec Dieu, on va le voir. » Et le peuple se retrouve là, il est impressionné par le déploiement de la puissance des éléments de la nature, au point que le peuple dit « Écoute Moïse, prochainement, tu vas y aller tout seul. Nous, tu viendras nous dire juste ce qu'il a dit. » Parce que là, nous avons été terrorisés. Là, nous avons eu peur. Dieu est grand. Dieu est puissant. Et sa grandeur est une grandeur qui mérite qu'il ait une place considérable et un respect profond de notre part. Je voudrais proposer que nous puissions aller un peu plus loin dans cette réflexion sur la crainte de l'Éternel. Il y a un texte qui va nous montrer véritablement et d'une manière décisive la différence véritable entre ces deux sortes de craintes. Tu veux bien mettre 1 Jean chapitre 4, le verset 16 à... Tu as jusqu'à 19, hein? 1 Jean. Attends, tu avais pris Jean. Non, c'est le même auteur, mais ce n'est pas le même texte. Celle-là, c'est l'évangile, mais non. Ah, parce que là, c'est « Va, dit Jésus, appelle ton mari. » Oh là 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 là, c'est pas ça. Donc, c'est 1 Jean, la première épître. Hein. 1 Jean 14, qu'est-ce que je raconte, moi? C'est ça, merci. Parce que 14, il n'y a pas de 1 Jean 14, hein. Sinon, pendant que tu le cherches, Ah, ben voilà. Jusqu'à 19, hein. Tu as jusqu'à combien? Ça va, on va s'arrêter là, c'est bien aussi. Très bien. Ah non. Parce que là, on ne voit pas la crainte. Hein. On la voit un tout petit peu. Mais pas comme il faut. La technologie, on y dépend. Hein. Vous voyez pourquoi est-ce qu'il faut prendre sa Bible? C'est beaucoup plus simple. Hein. Avec sa Bible, tac, on y est, tout de suite. 1 Jean 4, 16 à 19. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Tel qu'il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Garde le texte, ne l'enlève pas encore. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Il a viré, il a dévié, il est parti. Ah, bien. L'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Voyez, ce texte est intéressant parce que il souligne de quelle crainte parle-t-on ici. On ne parle pas de cette crainte-là, la crainte de la peur. Parce que quand on aime, on n'a pas peur. Quand il y a le rapport à la peur, alors il n'y a pas l'amour. Il ne s'agit pas donc de la peur, parce que la peur est incompatible avec l'amour. Et donc, de quelle crainte on parle alors? On ne parle donc pas de cette crainte-là. On parle plutôt de la crainte en termes de respect, parce que l'amour peut aller en rapport avec cette notion de crainte-là. En effet, une personne qu'on aime, on la respecte. Vous êtes d'accord? Une personne qu'on aime, on veut l'honorer. On veut lui donner de l'importance, de la valeur. On veut le valoriser. C'est pas une personne qui va être mise sur le même piédestal. Il va être mis sur un certain piédestal. Parce qu'on veut marquer son importance. C'est cela, cette notion de crainte-là. Considération profonde, respect profond, admiration. On est prêt à se dévouer pour elle. On est prêt à se donner à fond pour elle. À consacrer de l'énergie, du temps, de la force pour elle. C'est de cette crainte-là. Craindre Dieu au point de lui donner de la valeur, de l'importance. Dans la Bible, on dit souvent, ne craignez pas. Vous connaissez ça, ne crains pas, soyez sans crainte. Donc, ne soyez pas dans la peur. Mais, de l'autre côté, il nous est exhorté de craindre l'Éternel. Vous connaissez ce chant, ne crains rien, je t'aime. Je suis avec toi, ne crains rien, je t'aime. Ça montre bien ça. Ça montre bien cette idée-là, que de l'autre côté, il y a la crainte en tant que peur. De l'autre côté, il y a la crainte autrement. La crainte qui est le respect de Dieu. Pourquoi est-ce que ce matin, je voudrais revenir sur la crainte? Pourquoi je parle de cette crainte qui consiste dans le respect profond de Dieu? Parce que nous sommes dans un monde profondément irrespectueux. Nous sommes dans un monde où la camaraderie, la familiarité, l'habitude de copiner est beaucoup plus grande et altère notre façon de voir Dieu. Altère notre considération de Dieu. On finit par regarder Dieu comme un copain, comme un gars que je peux charrier, que je peux insulter, avec qui je peux faire n'importe quoi. Dieu aujourd'hui est galvanisé. Regardez, moi, parfois je suis obligé d'arrêter la radio parce que il y a des comédiens là-bas à la radio parfois qui se mettent à parler, mais dans toutes leurs blagues, il faut qu'ils mettent Dieu dedans et qu'ils se foutent de lui. Nous aussi, les chrétiens, contrairement aux apparences, nous n'avons pas toujours cette attitude respectueuse de Dieu. Contrairement aux apparences. Nous ne prenons pas toujours à cœur l'œuvre de Dieu. Nous ne prenons pas toujours à cœur la vie de Dieu en nous. Le respect de notre corps, par exemple. Le respect de notre cœur. Notre façon de faire des choix. Est-ce qu'il y a-t-il toujours cette espèce de respect, de soumission? Je ne parlerai pas de crainte en termes de peur, mais de considération profonde où c'est, je le mets sur un piédestal où il est élevé. La crainte de Dieu est quelque chose qui doit venir de nous, de l'intérieur de nous. Je ne dois pas, contrairement à la manière dont Dieu s'impose avec les païens, Dieu s'impose avec les païens, suscite la crainte en posant des actes forts. Vous allez à interdit, dit-il au peuple. Vous rentrez dans ce pays-là, vous les tuez tous. Et là, ces gens se disent, ouh, ils ont peur de ce Dieu-là. Et ils se tournent vers ce Dieu-là, ils se convertissent parce qu'ils ont peur de lui. Mais ce que Dieu attend de nous, ce n'est pas de ça que Dieu attend de nous. Dieu attend de nous que ce soit un mouvement de l'intérieur de nous. Pas une action extérieure de Dieu, mais une action à l'intérieur de nous qui fait le choix de donner à Dieu de l'importance. Dans notre façon de travailler pour Dieu, j'ai un engagement avec Dieu dans l'Église. Je le fais comment? Je le galvaude? Ou je le respecte? Ou je suis là quand il faut? Et je fais ce que je dois faire? Et peut-être même plus, s'il le faut. C'est ça considérer Dieu. C'est ça considérer Dieu. C'est ça respecter Dieu. C'est lui donner une telle valeur que rien d'autre n'a cette valeur-là. Deux choses pour lesquelles la crainte de l'Éternel est importante dans notre vie. Première chose, première raison, la crainte de l'Éternel, quand on comprend bien la crainte de l'Éternel, c'est vrai que parfois Dieu est obligé de passer par des épreuves pour nous calmer. Parfois Dieu nous met des situations sérieuses dans nos vies où nous sommes fortement éprouvés pour apprendre à le craindre. C'est vrai. Mais j'ai pas toujours besoin de ça. Je peux m'impliquer, je peux me mobiliser tout seul, sans nécessairement qu'il y ait une épreuve qui me frappe dessus pour que je me dise, ah, attention, je dois maintenant me mettre en ordre. Deux choses, deux raisons. Première raison pour laquelle la crainte de l'Éternel, bien comprise, est importante, c'est que la crainte de l'Éternel nous pousse à la sanctification. Ah, la sanctification, c'est une notion que, waouh, on n'aime pas trop aujourd'hui. Je ne vais pas revenir sur ce que c'est que la sanctification, puisque c'est une autre prédication qu'il faut faire. Mais entrer dans ce processus où je rentre dans cette exigence de sainteté que Dieu me demande, c'est ça la sanctification. C'est un processus par lequel je rentre dans l'exigence de la sanctification, de la sainteté comme Dieu me le demande. C'est-à-dire que je conforme ma vie de manière à ce que ma vie soit une vie mise à part, une vie consacrée à Dieu. C'est ça la sainteté. C'est le fait d'être mise à part. C'est le fait d'être consacré complètement à Dieu et pas à autre chose. Le paradigme de nos vies doit changer quand on pense à la sainteté. Je ne dois pas dire « je travaille et puis je vais à l'église ». Je suis ceci et puis je suis aussi cela. Non, le paradigme de notre vie doit changer. Quand on pense à la sainteté, on doit se dire, je suis d'abord chrétien. Et tout ce que je fais dans ma vie, c'est en tant que chrétien. Ma valeur première, c'est chrétien. Où que je sois, que je dorme, que je sois debout, que je parle, que je rêve, peu importe ce que je fais, je suis d'abord chrétien. Et donc, à partir de là, je commençais maintenant à prier et à réfléchir comment faire pour que tout ce que je fais se conforme avec le fait que je suis chrétien. La crainte de l'Éternel poussera le chrétien à la sanctification. 2 Corinthiens, chapitre 7, le verset 1. C'est d'ailleurs, j'aime bien ce verset parce que il est parfois, il appelle à une manière de comprendre la sanctification qui est vraiment pour moi, qui rentre dans comment on doit le comprendre, en évitant le légalisme. Je suis pas en train de dire que nous devons rendre un processus de la sanctification en ayant des lois, tu peux pas faire ça, tu peux pas faire ça, tu peux pas faire ça. Je crois que c'est épuisant de pouvoir commencer à se dire, j'ai des règles que je dois respecter. C'est beaucoup plus facile quand je laisse le Seigneur me transformer de l'intérieur. Parce qu'alors c'est lui qui me rend capable de respecter toutes ces règles-là. Ça devient même un plaisir de les respecter parce que je ne dois pas utiliser ma chair pour ça. C'est par le Saint-Esprit que je le fais. 2 Corinthiens 7, verset 1. « Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. » La crainte de Dieu est un moyen pour avancer dans la sanctification. Quand je donne l'honneur à Dieu, quand je fais de Dieu ma valeur principale, le lieu même de ma vie, eh bien, je vais faire attention à comment je vis parce qu'il y a le témoignage. Je vais faire attention avec qui je parle, avec qui, comment je pense. Je vais faire attention à ma marche de vie de tous les jours parce que je suis d'abord chrétien et que c'est une exigence de la part du Seigneur que je sois saint comme lui est saint. Je voulais juste mettre ça pour souligner l'importance de la crainte de l'Éternel. Deuxième raison. Si j'ai bien compris la crainte de l'Éternel, alors j'aurai du zèle. Ça me poussera à avoir du zèle et de la discipline dans le service du Seigneur. Je voudrais juste que nous lisions Philippiens chapitre 2, le verset 12 et 13. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Deuxième raison, quand je comprends bien ce que c'est que la crainte de l'Éternel, j'ai du zèle pour le Seigneur. J'ai du zèle. Je suis pas froid. Je suis pas nonchalant. Mais j'ai une envie d'y aller, quoi. De servir Dieu, de me consacrer encore plus à son travail, à son œuvre. Je suis chaud pour lui, en quelque sorte. Et je vais être obligé de discipliner ma vie pour que la part du Seigneur soit toujours faite, satisfaite, rencontrée, avant toute autre chose. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement. Avec crainte et tremblement. Parce que c'est Dieu qui produit le vouloir et le faire. Que ces deux éléments, que ces deux arguments, ces deux raisons nous motivent à rechercher la crainte de l'Éternel, la crainte de Dieu. En fait, et je vais conclure, la crainte de Dieu fait partie de l'équipement nécessaire pour notre marche spirituelle et donc pour le réveil. Si on veut être au rendez-vous, il faut que notre vie déjà soit vécue avec cette crainte de l'Éternel. Et la crainte et l'amour vont de pair. Moi, j'imagine ça comme un peu deux moteurs du même avion. D'un côté, j'ai besoin d'aimer Dieu, d'avoir cette raison que je fais ça parce que je l'aime, parce qu'il m'a aimé le premier, parce qu'il s'est donné à moi, parce qu'il m'a apporté toutes les preuves de son amour, de son attention. Je vais faire des choses, je vais vivre pour ça, motivé par ça. Mais de l'autre côté, j'ai besoin de vivre aussi en sachant que c'est un grand Dieu. C'est peut-être mon ami, mais ce n'est pas vraiment mon ami. C'est plus qu'un ami. C'est plus qu'un père. C'est plus qu'un maître. C'est le Seigneur des Seigneurs. C'est le Roi des Rois. J'ai besoin de connaître et de réaliser sa grandeur, de réaliser que ce n'est pas n'importe qui. Je ne suis pas en face de n'importe qui. Celui qui a le droit de vie et de mort sur les humains. Celui qui va juger le monde. Celui qui a un mot à dire dans mon existence. Ce n'est pas n'importe qui. J'ai besoin de savoir. Celui-là, il m'aime. Je dois l'aimer, mais je dois l'aimer respectueusement. Notre monde banalise la vie aujourd'hui. Banalise l'amour. Banalise le respect, banalise les relations. Aujourd'hui, être ami avec quelqu'un, c'est s'insulter, c'est s'envoyer des vannes, c'est se rabaisser. Dans le couple, l'homme, dès que l'homme dit quelque chose, la femme, toi, un idiot comme toi, etc. Donc, on est dans des trucs vulgaires comme ça aujourd'hui, qui fait que la valeur de l'autre n'est pas là. Or, Dieu est grand, il est puissant, il mérite que nous ne le regardions pas comme simplement notre copain. Et que nous le regardons comme il est réellement le Dieu Tout-Puissant. Ainsi, l'amour, la crainte de Dieu, permet que nous puissions décoller dans notre vie, spirituellement, comme deux moteurs d'avion qui permettent à l'avion de décoller et de tenir la route et d'être fort. L'un a besoin de l'autre. Et après tout, c'est normal, hein ? Nous avons découvert un Dieu glorieux et il en impose. Je vous ai parlé d'Ésaïe. Je vous ai dit comment Ésaïe a été effrayé en entrant dans le trône de Dieu. Il s'est dit, je suis un pécheur, je vais mourir ici. Le peuple de Dieu, je vous ai dit aussi comment il a eu peur de Dieu. Mais ce Dieu vient à nous avec amour. Alors, il impose la révérence, le respect. Et puissions-nous bénéficier du fait qu'il nous aime et que nous avons un rapport d'amour pour peut-être certainement mettre nos vies en ordre, certainement vivre pour lui, avoir la détermination pour lui, sans attendre qu'il nous donne des fessées, qu'il nous corrige, qu'il nous secoue, juste parce qu'on l'aime et parce qu'on connaît sa valeur. Amen. Prions. Merci Seigneur. Merci pour ce que tu es. Donne-nous cette passion de toi. Donne-nous de te regarder comme tu es vraiment, pas comme nous pensons que tu es. Aide-nous à te voir comme tu es véritablement, afin que la crainte, cette crainte ne soit pas une crainte de peur, mais une crainte d'admiration, de respect, de dévotion. Aide-nous à combiner cela avec l'amour profond que tu as pour nous. Un amour incommensurable. Un amour qui nous veut le bien. De sorte que cette crainte que nous allons avoir de toi ne sera jamais une crainte dans la peur. De sorte que l'amour et la crainte de toi vont se combiner pour nous rendre encore plus prêts, mieux équipés pour le réveil et pour même le témoignage de notre vie. Je te le demande ainsi, dans le nom de Jésus. Amen.